Radio Prague, les informations.
Bonjour, affaire des avions Casa, la levée de l'immunité parlementaire de Vlasta Parkanova a été recommandée aux députés. Pour la première fois, la dette publique tchèque dépasse les 40% du PIB. Et puis enfin, le nourrisson enlevé la semaine dernière a été retrouvé en Allemagne. Réunie ce mardi, la commission des mandats et des immunités a recommandé aux députés de voter en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente de la Chambre, Vlasta Parkanova, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires. Le vote se tiendra mercredi après-midi. Vlasta Parkanova est soupçonnée d'abus de pouvoir et de confiance en 2009, alors qu'elle était ministre de la Défense sous le gouvernement Topolánek. Elle aurait joué un rôle dans l'achat douteux de 4 avions militaires de transport Casa pour un montant de près de 140 millions d'euros. Selon une estimation des enquêteurs, le coût de ces avions aurait été surévalué de près de 17 millions d'euros. 64 milliards d'euros, tel était le montant de la dette publique de la République tchèque à la fin du premier semestre de cette année. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le montant de la dette cumulée de l'État dépasse la limite des 40% du produit intérieur brut, avec 42,6%. Cette somme représente une dette de près de 6120 euros par habitant. Dans l'ensemble, il s'agit d'une augmentation de 5,3 milliards d'euros depuis le début de l'année et de près de 9 milliards d'euros en l'espace d'un an. Les chiffres ont été communiqués ce mardi par le ministère des Finances. La progression de la dette publique est due essentiellement à l'accumulation de déficits du budget de l'État. Fait divers, les policiers allemands ont retrouvé lundi après-midi le nourrisson enlevé mercredi dernier à Tremitze, dans les environs d'Oustina de la Bem, Bohême du Nord, une région frontalière avec l'Allemagne. 3 femmes et un homme, tous de nationalité allemande, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs du kidnapping. L'information a été communiquée ce mardi par le directeur de la police d'Oustina de la Bem. La petite fille avait été enlevée 18 jours après sa naissance, alors qu'elle se trouvait dans un landau poussé par sa mère dans la rue. Elle est en bonne santé, selon la police. Les raisons de son enlèvement ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. Écologie, environ 2/3 des Tchèques trient régulièrement leurs déchets ménagers. La République tchèque se range ainsi parmi les 5 pays les plus responsables en la matière, avec la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas. En croire une enquête menée par Botticelli, société d'études et de relations publiques, les Tchèques trient notamment le papier, les matières plastiques et le verre pour ce qui est des matériaux recyclables issus des emballages. En revanche, le carton leur pose plus de problèmes. Au total, le taux de recyclage des déchets issus des emballages s'est élevé à 72% en 2011. En moyenne, chaque Tchèque a trié 40 kg de déchets, mais seulement 300 grammes issus des emballages de boissons en carton. Ainsi, seuls 19% des 17 000 tonnes de déchets issus des emballages de boissons en carton ont été recyclés. La station de métro Národní třída, située sur la ligne B et dans le centre de Prague, a été fermée ce mardi pour 2 ans pour cause de travaux. La construction d'un centre devant accueillir à terme bureaux administratifs et logements y est prévue. Le coût du projet est estimé à environ 160 millions d'euros. La station de métro, empruntée quotidiennement par plus de 20 000 voyageurs et dont l'accès se fera ensuite à partir de ce centre, sera également entièrement reconstruite pour une somme de 20 millions d'euros. Culture, la 7e édition du Bohemia Jazz Festival a débuté ce mardi à Prague par un concert dans le jardin Waldstein. Miroslav Rotsal Bakersuit, groupe vainqueur du Jazz Prix 2012, et le duo australien The Bakersuit se sont produits à l'occasion de cette première journée. Le festival se poursuivra ensuite sur la place de la Vieille Ville à Prague, puis dans le reste du pays, précisément à Plzeň, Domažlice, Olomouc, Brno, Tabor, České Budovice, avant de s'achever à Prachatice le 22 juillet. Tous ces concerts se tiennent sur les places historiques de ces villes et sont gratuits. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable à nuageux qui règne ce mercredi, jour de la fête des Olga. Quelques averses sont prévues essentiellement dans la moitié ouest du pays. La moitié est restant, elle, plus dégagée. En Bohême, les températures varient entre 19 et 24 degrés. Le mercure grimpera, lui, jusqu'à 29 degrés en Moravie. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie, et plus précisément en la compagnie de Magdalena Rozinkova, pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. À la une de l'actualité tchèque de ce mardi, la mort suspecte d'un juge tchèque. Il avait notamment présidé en 2010 le procès des néo-nazis responsables de l'incendie criminel d'un logement rom à Vítkov. Nous vous en dirons plus dans un instant. Nous vous inviterons ensuite au festival d'été du théâtre de Shakespeare, événement incontournable de la vie culturelle pragoise. À l'affiche cette année notamment le drame Richard III. Dans la seconde partie de notre programme, nous reviendrons avec l'historien Igor Tchoukarin à l'histoire du tourisme tchèque dans l'ancienne Yougoslavie. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le juge du tribunal d'Ostrava, Miloslav Studnička, a été retrouvé mort ce lundi à son domicile situé dans la ville de Frenštát pod Radhoštěm dans la région de Nový Jičín. Juge connu et reconnu, âgé de 64 ans, il avait notamment présidé en 2010 le procès des extrémistes de droite responsables de l'incendie criminel d'un logement rom à Vítkov. Mardi après-midi, les enquêteurs s'interrogeaient encore sur la nature de cette mort et n'écartaient ni la thèse d'un meurtre, ni celle d'un suicide, ni même celle d'un accident. Pierre Maignan.
Ce lundi matin, des employés du tribunal d'Ostrava, inquiets de l'absence du juge Miloslav Studnička, en informent la police. Des agents se rendent alors à son domicile et découvrent son corps inanimé aux alentours de 13h. Selon les informations recueillies par la chaîne d'information continue ČT24, le juge a été découvert, la gorge tranchée et serait décédé vers 11h. La piste de l'assassinat est d'abord privilégiée par les enquêteurs comme par les médias. À l'instar du nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, qui espérait que la mort de Miloslav Studnička ne soit pas liée à sa qualité de juge.
Je souhaite que sa fonction de juge ne soit pas la cause de sa mort brutale. J'espère qu'il y a une autre raison à ce drame. Dans le cas où il aurait été assassiné pour la façon dont il rendait la justice, ce serait une véritable tragédie et une grande perte pour le système judiciaire tchèque.
Au cours de sa longue carrière, Miloslav Studnička avait en effet jugé de nombreuses affaires importantes, de drogue, de malversations financières ou encore de crimes. La plus médiatisée étant celle de Vítkov, il y a 2 ans. Il avait alors condamné 4 extrémistes de droite à des peines de 20 à 22 années de prison pour avoir incendié une maison dans laquelle habitaient des Roms et pour avoir grièvement blessé un enfant de 10 ans. Le juge de 64 ans travaillait actuellement sur une dizaine d'affaires. Robert Schlachta, le spécialiste de l'extrême droite, rappelait que le meurtre d'un juge serait une chose jamais vue en République tchèque. František Bublan, le président social-démocrate du groupe pour la défense et la sécurité, ajoute que cette mort pourrait soulever la question de la protection des juges.
Jusqu'à présent, ce sont des choses que l'on n'a jamais vues chez nous. Mais dans d'autres pays, par exemple en Slovaquie, les juges et les procureurs généraux ont une certaine tendance à être protégés et isolés. Cependant, cela n'est pas forcément pratique car cela les contraint parfois à une vie quasi monastique.
Pour autant, la piste du meurtre n'est désormais plus la seule. Il pourrait également s'agir d'un suicide ou d'un accident. La porte-parole de la police d'Ostrava a ainsi déclaré que la maison familiale de Miloslav Studnička était remplie de chiens qui auraient pu l'attaquer à mort. De plus, aucune arme n'a pour l'instant été retrouvée. Les policiers en charge de l'enquête attendaient, mardi, les résultats de l'autopsie afin d'en savoir plus. Nous vous tiendrons informés des suites de ces affaires dans les informations.
Jusqu'au 7 septembre prochain, les amateurs de théâtre sont invités à plonger dans l'extraordinaire univers shakespearien au château de Prague, ainsi que dans une dizaine de villes tchèques et slovaques. Lancé en 1990 sur l'initiative de l'ancien président Václav Havel, le plus important festival de théâtre en plein air d'Europe consacré au célèbre dramaturge britannique propose cette année notamment le drame Richard III, présenté en version tchèque et slovaque. Élise Martinelli nous en dit plus.
Pomozte králi! Pomozte králi! Jeho kuň padl! Běs jak pěšák! Ve chtálu smrt hledá Richmonda! Pomozte králi!
Effectivement, le festival d'été du théâtre de Shakespeare se déroule dans toutes les plus grandes villes tchèques ainsi qu'en Slovaquie. Plus de 150 représentations sont proposées pour un voyage parmi 10 des plus célèbres œuvres de Shakespeare, dont Richard III, La Mégère apprivoisée, Les deux gentilshommes de Vérone, Peine d'amour perdue, Le songe d'une nuit d'été, Henri IV et l'incontournable Roméo et Juliette. La représentation de Richard III qui a ouvert l'édition de cette année a été mise en scène par un artiste renommé, le réalisateur et comédien slovaque Martin Huba. Dans cette pièce de Shakespeare qui raconte l'ascension et la chute du tyran Richard III, la comédienne Clara Isova campe le rôle de Lady Anne. On l'écoute. C'est une pièce sur la lutte pour le pouvoir. Le personnage principal n'a qu'une seule ambition, accéder par tous les moyens au trône. Évidemment, nous nous sommes demandé pourquoi il réagissait de cette façon-là. Le réalisateur Martin Huba ne voulait pas présenter Richard uniquement comme un monstre qui assassine tout le monde autour de lui en vue de s'emparer du pouvoir. Nous avons pensé que son comportement était peut-être lié à son enfance. Il a été très critiqué par sa mère, qu'il a en fait rejeté juste après sa naissance. C'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Je crois que quand on est trop critiqué par ses parents, quand on est petit, cela crée des traumatismes qui persistent toute la vie. Martin Ilski est professeur de littérature anglo-saxonne à l'université Charles, mais surtout un excellent connaisseur et traducteur de l'œuvre de Shakespeare. Martin Ilski a traduit toutes les pièces jouées dans le cadre de ce festival, auquel il assiste aussi avec un vrai plaisir en tant que spectateur.
Ce festival d'été est devenu un événement incontournable de la vie culturelle pragoise, ce que je n'aurais jamais négligé parce que le théâtre est avant tout pour le public. À chaque fois que je m'assois dans le public, je me sens très bien parmi ces gens qui ne connaissent pas forcément Shakespeare, mais qui sont venus pour le théâtre, en plus dans un endroit chargé d'histoire. Pour venir ici, dans la cour du palais de Burgravia, il faut marcher beaucoup, il faut descendre du tram et monter l'escalier. Cela ressemble un peu à un pèlerinage. Ensuite, quand je vois le public captivé par l'histoire, je me dis qu'il ressemble certainement au public de l'époque de Shakespeare.
Rappelons que dans la capitale, les représentations ont lieu non seulement dans la cour du palais du Burgravia, dans l'enceinte du château de Prague, mais également au palais Liechtenstein, sur la place de la Malastrana, Malostranské náměstí. Les prix des billets varient de 200 à 990 couronnes. Plus de détails sur la programmation du festival au www.shakespeare.cz.
Dans notre rubrique Panorama aujourd'hui, deuxième partie de l'entretien avec l'historien Igor Tchoukarin qui s'est intéressé au tourisme international dans l'ancienne Yougoslavie, une destination privilégiée par les touristes tchèques et tchécoslovaques depuis de nombreuses années. Igor Tchoukarin est au micro d'Anne-Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Pour revenir un peu sur ces relations entre tourisme et politique, j'ai dit une bêtise tout à l'heure en parlant de la Yougoslavie dans le bloc soviétique. Je comprenais bien dans les vraiment toutes premières années de l'après-guerre, mais en sachant qu'après la Yougoslavie allait sortir du bloc, on va dire, allait devenir un pays non aligné, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire que le tourisme tchécoslovaque en Yougoslavie peut être un reflet des relations yougoslavo-tchécoslovaques?
Enfin, oui, le reflet dans la mesure où le tourisme était dépendant des relations, des bonnes relations politiques que les deux pays entretenaient. Et pour vous donner un exemple, en 56, le tourisme tchécoslovaque renaît en Yougoslavie, mais c'est début, disons, somme toute, très prudent. Seulement quelques milliers de Tchécoslovaques peuvent se rendre et ça prend plusieurs années. En fait, c'est qu'au début des années 60 où on peut parler d'une massification du phénomène et les autorités tchécoslovaques ont toujours fait preuve de suspicion vis-à-vis le tourisme de leurs citoyens en Yougoslavie. Ils y voyaient une façon facile d'immigrer à l'Ouest pour leurs citoyens. Ils avaient des craintes par rapport aux recels, aux activités illégales que leurs citoyens pouvaient exercer en Yougoslavie. Et c'est en ce sens que le tourisme était contrôlé. Plusieurs Tchèques m'ont parlé que dans les tours guidées, il y avait toujours une ou deux personnes qui faisaient partie de la police politique tchécoslovaque. Et c'est des mesures qui disons, influençaient le quotidien des touristes.
Alors, entre la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, on va dire c'est une longue histoire d'amitié des peuples, c'est un petit peu exagéré, mais on sait que les Yougoslaves et les Tchèques, historiquement, politiquement, ont beaucoup de liens depuis la moitié du 19e siècle. Alors, comment les deux pays se perçoivent l'un l'autre?
En fait, c'est une question qui est complexe. Les représentations de l'un par rapport à l'autre sont plutôt... Il y a une très grande inertie dans ces représentations. Pour vous donner un exemple, il y a un auteur croate qui écrit en 1912 que les Tchèques venant à Medulin, une petite ville d'Istrie, n'achètent qu'un demi-litre de bière et le reste, ce sont les conserves de Bohème. Et cette image du Tchèque plutôt... peu disposé à dépenser ses sous à l'étranger, eh bien, cette image, ce stéréotype perdure tout au long du 20e siècle et continue toujours au 21e siècle. Ensuite, je pourrais vous dire qu'il y a eu une grande histoire d'amitié entre les Yougoslaves et les Tchèques. Il y a une proximité linguistique, proximité culturelle qui fait en sorte que les Tchèques se sentaient eux-mêmes en Yougoslavie. C'est intéressant de voir que dans un article récent, j'ai pu constater que les Tchèques aiment voyager en Slovaquie. Pourquoi? Parce que ils se sentent comme chez eux, tant au niveau du paysage qu'au niveau culinaire et culturel. Donc, c'est une recherche du semblable. Et ce semblable était possible en Yougoslavie. En fait, les pays yougoslaves, on peut les voir comme un immense réservoir ethnologique. Ça répondait aux attentes des touristes. Quand je parle de réservoir ethnologique, et puis c'était cette possibilité de voir un folklore vivant, de retrouver les anciennes racines slaves qui étaient toujours vivantes en Yougoslavie. Et il y avait par contre toujours une tension par rapport au désir de voir un pays moderne que les autorités communistes promouvaient. Et cette tension, c'est-à-dire c'est ça, entre cette modernité et ce désir de retrouver les traditions toujours vivantes. Donc à la fois, il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de déceptions lorsque finalement ils se retrouvaient dans un pays qui, somme toute, ressemblait au leur.
Avec la mer en plus, ce qui leur manque beaucoup aux Tchèques.
Effectivement, c'est la mer. Il y a une césure entre le tourisme tchèque sur le littoral et le tourisme tchèque dans le reste de l'ancienne Yougoslavie. Et faut-il le mentionner, les Tchèques allaient à la mer. C'était la destination principale. Et même si on regarde au niveau des guides touristiques imprimés, il y avait beaucoup de guides dans l'entre-deux-guerres qui portait uniquement sur le littoral, ce qui démontre aussi tout l'intérêt que les Tchèques avaient pour la mer Adriatique, qui appelaient parfois leur propre mer ou la mer slave.
Est-ce qu'il y avait des contacts, parce que la Yougoslavie était donc un pays touristique pour les pays d'Europe de l'Ouest aussi, est-ce qu'il y avait des rencontres, est-ce qu'il y avait des contacts entre les populations venant du bloc soviétique et les populations venant du bloc capitaliste, pour faire très manichéen?
Oui. En fait, il y a deux choses. Il n'y avait pas de ségrégation politique en Yougoslavie. Alors, le touriste tchécoslovaque pouvait très bien rencontrer des touristes d'Europe de l'Est et échanger. Par contre, il y avait une certaine ségrégation économique, des destinations qui étaient beaucoup trop chères pour les Tchécoslovaques. Donc, du coup, il y avait une certaine distance, il y avait des endroits qui étaient peu fréquentés par l'un ou par l'autre. Et ensuite, les rencontres, oui, la Yougoslavie était un pays hôte de plusieurs rencontres internationales. Pour vous mentionner un exemple, il y a le groupe Praxis qui, tous les étés, sur une île de Croatie, se réunissait Et ce groupe réunissait en fait des intellectuels de l'Europe de l'Ouest et de l'Est. Donc à plusieurs égards, il y avait des rencontres étaient possibles et il n'y a aucun doute que plusieurs touristes tchécoslovaques discutaient avec des touristes, discutaient de sujets politiques avec des touristes de l'Europe de l'Ouest et des liens d'amitié qui ont été tissés, qui ont été poursuivis après la chute du mur de Berlin. Et en ce sens, la Yougoslavie était un pays, somme toute, un pays ouvert aux deux mondes.
C'est la fin de notre rubrique Panorama que nous avons présentée en rediffusion. C'est aussi la fin du programme en français sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. À demain.